franceinter.fr.
Demain matin, nous avons notre première séance des psychanalyses.
Mais ça va pas la tête.
Il faut vaincre tes terreurs.
Ça demande psychologie, doigté, souplesse.
Mais si je t'ai pensé,
je pense que t'es un ouf, toi.
Ah, je suis un zinzin. Je suis un zinzin.
Bonjour à tous, à quoi bon être optimiste? C'est le thème ce matin dans Ça va pas la tête. Une émission réalisée par François Audouin, préparée par Agathe Le Taillandier et Lilith Sahakian avec l'aide de Lorraine Bess. Dans notre beau pays, éminemment voltairien, l'optimisme est souvent raillé, moqué, déconsidéré. Souvenons-nous du personnage de Pangloss dans Candide et de sa devise « Dans le meilleur des mondes possibles, les choses ne peuvent être autrement ». Allusion moqueuse à la philosophie de Leibniz qui transformait toute catastrophe en optimisme béat. Mais à quoi bon être optimiste dans un monde qui ne va pas très fort? Ne vaut-il mieux pas considérer comme Schopenhauer qu'aujourd'hui est mauvais et chaque jour sera plus mauvais jusqu'à ce que le pire arrive? Mais quels sont donc les bienfaits de l'optimisme? Naît-on avec un gène de l'optimisme? Y en a-t-il un bon et un mauvais comme le cholestérol? Et si dans notre beau pays voltairien, l'optimiste n'était pas finalement un individu subversif? Nous verrons également que Frank Capra a su faire du beau cinéma, confiant en l'homme et en l'avenir. Et puis nous évoquerons des comédies musicales qui célèbrent l'optimisme à travers des numéros de claquettes.
France Inter, Ali Rebi.
Mais moi les dingues, je les soigne.
Ça va pas la tête.
Je n'arriverai donc jamais à être vraiment malheureuse. Tu vois, ce matin encore, je me suis réveillée toute gaie. Et je le suis encore plus depuis que j'ai pris mon café. Mon jeune avocat se montre très efficace. Il s'est arrangé avec Philippe qui va payer la caution. Dès que je serai libérée, je partirai pour les Landes où il m'a trouvé un boulot en attendant le procès. Si être dilettante, c'est se délecter, alors je suis dilettante. La prison, tu vois, c'est une expérience à tenter. Au moins une fois. Une fois, sans plus. Ah, on s'en souviendra de cette vie. Évidemment, c'est pas toujours simple. Parfois, c'est même à faire dégueuler un canard. Au secours. De toute façon, j'ai conservé en moi l'essentiel. Ce souvenir de ma petite camarade de balançoire au Luxembourg. Elle me regarde avec ses grands yeux bleus. Elle penche un peu le cou. Et moi, je lui souris.
La dilettante de Pascal Thomas avec une Catherine Fraud qui prend les choses du bon côté en négligeant les aspects fâcheux, pour reprendre la définition du Robert. Bonjour professeur Michel Lejoyeux.
Bonjour.
Vous êtes donc professeur de psychiatrie, chef du service de psychiatrie et d'addictologie à l'hôpital Bichat. Vous avez dormi sur le divan du studio 611, hein. Vous étiez là hier, vous avez pris un abonnement?
Oui, ça y est, je suis devenu tellement optimiste que je pense que je peux rester chez vous tous les matins.
Michel Lejoyeux, vous avez publié les 5 clés du comportement, construire soi-même son optimisme, disponible au livre de poche. Construire son optimisme, on ne naît pas optimiste, on le devient.
Oui, c'est Alain qui le disait, hein, le pessimisme est de nature, le pessimisme est d'information. Il suffit d'écouter ce qui nous a précédé, c'était pas extraordinairement optimiste.
Les infos.
L'optimiste est un travail sur soi, et moi j'ai beaucoup insisté sur l'idée de son propre optimisme, parce qu'il y aurait quelque chose d'un peu totalitaire, vous voyez, à une société qui ne vivrait que sur le mode d'une pensée positive qui serait partagée par tout le monde. C'est chacun de nous, de manière très intime, très personnelle, qui doit être capable, j'allais presque dire, d'optimiser quelque chose de ses angoisses, et pas une manière, vous voyez, quelque chose où on imposerait à tout le monde une manière de penser. Et puis, on aura l'occasion d'en parler dans cette émission. C'est vraiment bon pour la santé. Hein. C'est Voltaire qui a dit « J'ai décidé d'être optimiste, c'est bon pour la santé ». Notre philosophe ne savait pas à quel point il avait raison. Toutes les études qui suivent lui donnent raison.
Bonjour Alain Braconnier.
Bonjour.
Psychologue, psychiatre, consultant à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Vous venez de publier « L'enfant optimiste ». Les enfants sont naturellement plus optimistes que les adultes?
Ah oui, je pense que les enfants sont nettement plus optimistes que les adultes. C'est le problème, c'est de le rester. Je dirais même que le bébé, pour moi, c'est le prototype de l'optimiste. Il arrive au monde, il sait rien, il a besoin de tout le monde, et il avance, il touche, il écoute, il sourit, il est intéressé par les bruits, il est curieux. Et au fond, une des qualités de l'optimiste, c'est la curiosité, c'est l'émerveillement, c'est la découverte du monde. Donc le bébé est un grand, grand optimiste. Puis petit à petit, ça se dégrade.
L'optimisme, c'est l'enfance retrouvée à volonté, hein, pour paraphraser Baudelaire. Et c'est un peu le personnage de Catherine Fraud qu'on vient d'entendre dans La Dilettante. Hein.
Tout à fait, oui. C'est un beau personnage là qu'on a entendu.
Bonjour Frédéric Schifter.
Bonjour.
Vous êtes philosophe en duplex depuis France Bleu à Bayonne. Ça va? On ne vous dérange pas entre deux séances de surf ou de bodyboard?
Non, pas du tout. Non, du surf, hein, pas le bodyboard.
Frédéric Shifter, vous avez notamment publié Le charme des penseurs tristes, que j'avais beaucoup aimé, et vient de paraître chez Écriture, le dictionnaire chic de philosophie. Vous ne portez pas l'optimisme dans votre cœur, hein ?
Oh, c'est pas une affaire de cœur, c'est une affaire de philosophie, justement. Par exemple, quand j'entends Monsieur Braconnier dire que l'optimisme relève de l'enfance ou que l'enfant est par nature optimiste, je suis un peu sceptique, mais bon, le scepticisme, c'est aussi ma philosophie. Moi, il me semble que quand l'enfant naît, il braille, il pleure, il a l'air de protester contre le mauvais tour qu'on lui a joué. On a le sentiment qu'il anticipe cette chiennerie d'existence et que si ça ne tenait qu'à lui, il passerait l'éponge, ou enfin il jetterait l'éponge ou il passerait son tour. Donc bon, et après, s'il s'accommode de l'existence, c'est parce que on fait en sorte que ce soit le cas, c'est-à-dire que on le nourrit, on lui donne du sucre, on lui raconte de belles histoires. Mais il y a quand même une sagesse du nouveau-né, en tout cas, je sais pas du bébé, mais du nouveau-né. Qui est dans la protestation. Ça commence par une profession de foi pessimiste, la naissance.
Dans ce dictionnaire chic de philosophie, vous citez le réalisateur de certains lame shows, Billy Wilder. Billy Wilder qui faisait remarquer que ses amis optimistes avaient fini à Auschwitz, tandis que les pessimistes dans son genre avaient tout réussi à Hollywood.
Ah oui, mais c'est... Alors, par-delà la boutade, il y a, je pense, une vérité historique. C'est-à-dire que les pessimistes, généralement, ne voient pas l'histoire dotée d'un sens. Ils considèrent que l'histoire n'a pas de sens, que l'histoire est absurde, tout de même d'ailleurs que la vie d'un individu. Donc le destin collectif de l'humanité n'a pas plus de sens que la vie d'un individu. Et par conséquent, ils n'engagent pas l'humanité vers des voies meilleures. Tandis que les optimistes dans l'histoire s'évertuent à remplir les charniers. On veut un homme meilleur, on veut une société meilleure, et dès lors, on fait en sorte que ceux qui ne seraient pas d'accord avec ce programme finissent dans les goulags, dans des camps, fusillés, etc. Je me méfie toujours des optimistes, c'est-à-dire des gens qui veulent faire mon bonheur. Je me demande ce que je leur ai fait. Et c'est pourquoi je fuis dès que je vois quelqu'un qui veut absolument me rendre heureux.
Un mot rapide de Michel Lejoyeux.
Oui, qui fulmine là, hein, qui fulmine, mais qui va fulminer gentiment. On a deux points. C'est qu'effectivement, le pessimisme, c'est plus élégant, hein, c'est plus intellectuel. Quand on dit on est optimiste, la vie est heureuse, on a l'air au minimum d'un benêt ou d'un niais. Et puis, ce qui est pas si vrai que ça. Et puis l'autre chose, c'est que si on avait eu à certains moments un général de Gaulle pessimiste à Londres, je sais pas où on serait aujourd'hui.
On y reviendra tout à l'heure, Frédéric Shifter. Bonjour Laurent Vallière.
Bonjour Ravi.
Vous produisez cet été Tous en scène, une chronique dans le 5-7 de notre très bonne camarade Noël Bréham, chronique consacrée à la comédie musicale. Vous nous parlerez tout à l'heure d'un cinéaste qui avait foi dans son pays et dans la nature humaine, Frank Capra, pour qui la vie était belle.
Oui, ah oui, je crois que c'est un film qu'il a réalisé en 1946, c'est un de ses derniers films d'ailleurs, à une époque où il pouvait plus faire les films qu'il voulait à Hollywood. Il avait donc monté sa boîte. C'est le film qui vous rend heureux par définition. C'est un film, le pitch est assez simple finalement. C'est un homme dépressif, au bout du rouleau, qui a bu, alcoolique, qui veut se suicider. Il y a un ange qui descend sur Terre et qui lui montre ce qu'aurait été la vie de lui et surtout de ses amis s'il n'était pas venu sur Terre. Et on sort de là, mais vraiment avec les larmes aux yeux à chaque fois.
On y reviendra tout à l'heure. Et puis vous évoquerez une comédie musicale, des comédies musicales qui célèbrent l'optimisme à travers des numéros de claquettes. N'hésitez pas à témoigner sur l'appli de France Inter ou sur Twitter, hashtag ça va pas la tête. Ooh, my goodbye, 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 my La chanteuse Jen qui rend hommage à Myriam Makeba, la chanteuse Jen qui se considère dans une interview comme une optimiste nostalgique.
Ça va pas la tête ?
Je comprends du physique par le moral, c'est la psychosomatique. Là, vous observez, relax, reste relax.
Ali Rebéi, ça va pas la tête ? Sur France Inter.
9h23 sur France Inter, à quoi bon être optimiste ? C'est le thème ce matin. Avec le club des incorrigibles optimistes, les psychiatres Michel Lejoyeux et Alain Braconnier, et le journaliste Laurent Vallière, et à Biarritz, un philosophe un peu plus pessimiste, Frédéric Schifter. Alors dans la vie de Brian des Monty Python, le dénommé Brian chante qu'il faut toujours voir la vie du bon côté, même crucifié auprès du Christ.
When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle, and this'll help things turn out for the best. Hey. Always look on the bright side of life.
Quand dans la vie tu tombes sur un os, ne ronchonne pas, siffle un peu pour tout arranger, pour que tout aille mieux, il faut toujours voir la vie du bon côté, chante l'optimiste Brian dans le film des Monty Python, Laurent Vallière.
Oui, mais c'est une chanson qui a été reprise ensuite lorsque les Monty Python ont décidé d'en faire une comédie musicale. Alors en fait,
Spamalot,
mais ça me fait penser à un autre moment dans Monty Python Sacré Graal, vous savez quand le chevalier noir se voit, il y a quelqu'un qui lui coupe les bras, après il y a quelqu'un qui lui coupe les jambes, il continue à dire mais vous ne mourrez pas. Ça devient dans la comédie musicale Spamalot, donc adapté de Monty Python Sacré Graal, un grand numéro de claquettes. Et en fait, moi j'ai l'impression que les claquettes, bon, qui est une forme qui est devenue très populaire dans les années 20 à l'époque de la dépression aux États-Unis, c'était vraiment, on fait de la danse avec nos pieds, on fait des danses très compliquées avec ses pieds et on fait de la musique avec ses pieds, toujours en souriant, même si c'est hyper compliqué. Et j'ai l'impression que c'était vraiment la danse de l'optimiste à cette époque-là. Et encore aujourd'hui, quand vous allez voir Spamalot, qui est souvent monté à Broadway ou à Londres, voilà, il y a un grand numéro de 7 minutes où alors ils sont en train de chanter ça en numéro de claquette.
Michel Joyeux.
Oui, effectivement, repérer les aspects positifs, on le voit bien. On voit aussi que souvent l'optimisme est quand même caricaturé. Il y a vraiment, on se moque des optimistes. Hein. Il est quand même, vous imaginez si vous parlez de la société et que vous dites qu'elle va plutôt bien, on vous interrompt très vite, on va pas vous laisser continuer les informations si vous dites que l'économie ou le monde ou la civilisation va bien. Il y a aujourd'hui un véritable conformisme du pessimisme.
Michel, Alain Braconnier, quel est le portrait robot de l'optimiste ?
Ah, je saurais pas décrire un portrait robot. Parce que d'abord,
quelle est votre définition de l'optimisme ?
Oh ben l'optimisme, moi j'ai une définition de psychologue. Hein. L'optimisme, c'est d'abord une disposition à penser l'avenir plutôt de façon favorable et surtout d'envisager des attitudes qui vont faire qu'on peut faire face à ce qui se passe. Ça, c'est l'optimisme. Et puis, il y a un autre aspect, là aussi, psychologique, disons, qui est que c'est une manière de penser. C'est-à-dire ne pas se tourner vers les regrets, c'est-à-dire envisager, en effet, ce qui est possible, même dans ce qui est difficile, et au fond, être dans le combat. J'ai été critiqué tout à l'heure par notre ami philosophe que j'avais déjà rencontré d'ailleurs, et on est des adversaires convaincus l'un et l'autre, qui était que au fond le bébé il pleure, il crie, ben oui, parce qu'il combat, il a envie de vivre, et au fond c'est pour ça que c'est un optimiste, parce que le combat ça fait partie des optimistes. Le pire c'est de renoncer. Et je pense que ça, c'est une qualité de l'optimisme. En effet, comme le dit Michel Lejoyeux, c'est vraiment quelque chose qui est parfois, qui apparaît comme des clichés. Être optimiste, c'est idiot, c'est bête. Alors c'est vrai, c'est tellement à portée de main le pessimisme. Pourquoi être optimiste? C'est à portée de main. Mais non, c'est parce qu'on vit.
Michel Lejoyeux, votre définition de l'optimisme?
Peut-être cette phrase que j'adore, qui est « se croire courageux, c'est être courageux ». C'est-à-dire, au fond, être capable de dire que ce qu'on pense de soi va influer sur ce qu'on est. Que nous avons une capacité à anticiper ce qui nous arrive. Comme le dit Alain Braconnier, et on est toujours d'accord, la capacité de combat, c'est-à-dire au fond pas vis-à-vis d'une difficulté se dire qu'elle sera plus forte que nous, mais se dire que bien sûr les difficultés sont là, on n'est pas plus niais ou naïf que d'autres, on travaille dans des hôpitaux qui sont confrontés à d'autres difficultés, mais qu'on a une possibilité d'influer et qu'une image positive agit sur la réalité.
Alors déjà au départ, j'ai plus de parents, ils sont morts quand j'avais 4 ans. Cette année, mon fiancé m'a largué. J'étais virée de l'école de sage-femme parce qu'un gynécologue a voulu me violer et que je lui ai balancé un coup de genou dans les couilles. Voilà. Donc là, je pense que je suis programmée pour un petit break et que ça va aller mieux.
Je vois pas ce qui vous permet de penser ça en même temps.
Il y a deux catégories de personnes. Ceux qui se disent quand le téléphone sonne, c'est qui encore ce chieur? Et puis ceux comme moi qui se disent, tiens, qui ça peut bien être?
Cécile de France en incorrigible optimiste. Alors Churchill disait qu'un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité, un optimiste voit l'opportunité dans chaque difficulté, Alain Braconnier.
Oui, je crois que c'est une bonne définition. Hein. Et puis il a montré que quand même il avait incontestablement une combativité utile et nécessaire même dans la période qu'il a traversé. Et je crois que c'est très vrai. C'est-à-dire que le pessimiste a plutôt une tendance à voir les difficultés dans chaque opportunité, ce qui fait qu'au fond, il a toujours le sentiment de pas avoir de chance. Et l'optimiste, c'est l'inverse. Il voit dans chaque difficulté une opportunité. Parce qu'au fond, même dans toutes les difficultés, c'est au fond un enjeu pour rebondir. Et c'est ça qui est intéressant. Moi, j'avais une grand-mère qui me disait toujours « Mais tu sais, à quelque chose malheur est bon ». Ça m'a marqué quand même. Et elle avait vécu des périodes qui n'étaient pas faciles.
Michel Lejoyeux.
Oui, on voit bien qu'il y a des métiers aussi qui déterminent ou pas l'optimisme et qu'il faut un certain optimisme pour les assumer. Vous voyez, médecin et journaliste sont deux métiers pour lesquels il faut être assez optimiste. Vous imaginez si vous n'aviez pas été optimiste en lançant cette émission, est-ce que vous auriez même commencé, est-ce que vous seriez sorti de votre lit? Donc on a absolument besoin à un moment pour croire, même si après la réalité est ce qu'elle est, pour croire que ce qu'on va faire est utile, et croyez-moi c'est vrai aussi dans la médecine, et c'est vrai aussi dans la médecine hospitalière, il faut une certaine dose d'optimisme, qui est un optimisme réaliste, hein, c'est pas pour dire qu'on n'a pas de difficultés, mais cette capacité, et on voit bien, et par exemple, il y a d'autres métiers, on a vu par exemple les poètes, certains écrivains ont besoin, et c'est pour ça que j'entends ce que dit notre ami philosophe, il y a certaines œuvres qui ne se construisent que dans la souffrance.
L'optimisme ne varie pas, hein, au fil des événements, c'est le regard que nous portons sur les événements qui change tout, Michel Lejoyeux.
Oui, encore que certaines études montrent que des traumatismes à répétition peuvent donner un coup à l'optimisme. À la fois, l'optimisme est un facteur de résistance, de résilience aux événements. Il y a des études israéliennes qui ont montré que les civils qui avaient subi des scuds résistaient mieux quand ils étaient optimistes. Mais on voit aussi qu'au-delà d'une certaine répétition de traumatisme, l'optimisme commence à diminuer.
Frédéric Schifter,
oui.
Petite réaction à ce qui se dit.
Que dire? Moi, j'ai le sentiment, tout à l'heure j'entendais Monsieur Lejoyeux, je crois, dire qu'il y avait un conformisme du pessimisme. Écoutez, si c'était le cas, je comprends mal comment se vendent si bien tous les livres qui promettent au lecteur un peu, disons, crédule, que eh bien, le bonheur est à portée de main et à portée de sa main. Je crois que, en fait, l'idéologie dominante est celle de l'optimisme, en raison même, d'ailleurs, des conditions catastrophiques dans lesquelles les gens vivent. Il est bien clair que le pessimisme, enfin, en tout cas, le pessimisme de conditions, le pessimisme de situation, le pessimisme vécu, l'angoisse du lendemain, l'angoisse de l'insécurité, et au-delà des même l'angoisse métaphysique, c'est-à-dire le hasard, le temps et la mort, et la maladie, etc., on voit bien qu'il s'agit aujourd'hui de faire en sorte que, eh bien, on dise aux gens, finalement, vous avez tort d'être pessimiste. Tout ça peut se guérir, tout ça peut se soigner. Il suffit d'un travail sur soi, il suffit de vous prendre en main, il suffit de vous ressourcer. C'est toutes ces histoires d'épanouissement personnel, etc., etc. Alors, du coup, et on dit qu'on a fait un progrès parce que on ne croit plus au ciel. Alors, autrefois, c'était les curés qui vendaient la rédemption, qui vendaient le salut, et qui, alors, ils disaient qu'au fond, la grâce leur viendra de Dieu. Aujourd'hui, on dit, les curés en blouse blanche nous disent, non, le salut viendra de vous-même, il est à portée de votre propre volonté, il faut, il y a qu'un faucon, il faut le vouloir, et on le peut. Alors c'est une nouvelle croyance, c'est-à-dire que maintenant on dit aux hommes, vous êtes des dieux pour vous-même, vous êtes à vous-même votre propre providence, il suffit de le vouloir et d'avoir quelques trucs, quelques recettes, alors faites ci, faites ça, etc. Donc aujourd'hui on se rend compte effectivement que on essaye de vaincre par de la poudre de perlimpinpin psychologique, on essaye de vendre de l'optimisme.
Michel Lejoyeux va vous répondre.
Dans un livre, pardonnez-moi une seconde, dans un livre, j'avais parlé de blabla, c'est exactement cela, c'est le blabla. Enfin, je me demande qui peut guérir qui de l'angoisse de la maladie, de l'angoisse de la mort, etc. Car enfin, on sait très bien comment l'histoire se termine, enfin, l'histoire de chacun. À peine sommes-nous nés qu'une tombe nous attend, d'accord ? On sait très bien cela. Donc, à quoi bon se leurrer ? À quoi bon... Alors maintenant, la vie, le combat, tout ça, si tu peux me permettre, je n'ai pas parlé tout à l'heure, bien entendu que l'on combat, mais on combat même pas sans le vouloir, on combat parce que nous sommes des animaux dotés de ce que Spinoza appelait un conatus, c'est-à-dire une espèce de pulsion de vie, comme ça, mais qui est une pulsion, même Schopenhauer, le vouloir vivre, c'est un vouloir vivre aveugle, on vit pourquoi, on n'en sait rien, on vit parce qu'il faut vivre.
Michel voilà. Lejoyeux va vous répondre, Frédéric Schifter.
Oui.
Michel Lejoyeux.
Oui, moi je ne vais pas avoir froid, là, en sortant de l'émission, parce qu'on est quoi ? On est des curés en blouse qui font du perlimpinpin, du blabla. C'est bien, il fait déjà bien chaud, je ne sais pas quel temps il fait à Biarritz, mais à Paris il fait bien chaud, mais là on va sortir couvert. Il y a quand même une différence, et je crois que c'est le sujet, entre un pessimisme collectif, et ça on le voit bien. C'est-à-dire qu'au fond, ce serait absurde d'aller dire que les grands sujets ne nous mènent pas vers quelque chose de pessimiste, et un optimisme individuel. Et moi je les vois, j'allais dire, dans l'intimité de ma consultation médicale, je vois des gens qui arrivent tout à fait à concilier les deux. Ce serait absurde d'imaginer une sorte d'optimisme comme une idéologie dominante et totalitaire. Mais il n'empêche que pour soi, pour supporter cette énorme chape de pessimisme qui nous tombe dessus, on a besoin d'un petit peu d'optimisme. Et je ne m'imagine pas dire dans la relation personnelle avec un patient, oh ben non, vous avez vu ce qui vous arrive, ça va être encore pire demain. Vous voyez.
Alain Braconnier, il existe un bon et un mauvais optimisme, comme il existe un bon et un mauvais cholestérol. Il existe un optimisme de l'illusion et puis un optimisme intelligent.
Oui, enfin, il y a un mauvais optimiste qui est l'optimiste excessif. Ça, Michel Lejoyeux le dit très bien, et on est tous d'accord, je pense, qui est un optimiste du déni de la réalité, au fond. Et l'optimisme, je dirais, qui est acceptable, qui est en effet un champ que moi je développe aussi, parce que mon métier m'amène à plutôt souhaiter que les personnes deviennent optimistes quand ils sont dans des souffrances. C'est un optimiste lucide, c'est-à-dire c'est pas un optimisme béné, c'est pas un optimisme béat, c'est pas un optimiste qui dénie la réalité, C'est un optimiste qui fait qu'en effet, on avance et puis on va vers ce qu'on désire. Tout l'enjeu, c'est de désirer quelque chose. Et je crois que l'être humain, on parlait de croyance tout à l'heure, je crois que l'être humain a un incroyable besoin de croire. Alors, on peut croire qu'on ne croit pas, en termes religieux, mais on a un incroyable besoin de croire. Et c'est ça qui nous fait vivre. Alors, évidemment, il y a la mort. Bah oui, il y a la mort. Croire qu'on est immortel, je crois que c'est pas une bonne idée, parce qu'on n'y arrivera pas.
Michel Lejoyeux, comment un optimiste compose-t-il avec cette vallée de larmes qu'est la vie, à certains moments, en cas de deuil, de maladie? Prenons l'exemple de Mozart.
Oui.
Dans votre livre, vous évoquez le rire de Mozart.
Absolument, le rire de Mozart et même des études récentes qui montrent un effet euphorisant de cette musique de Mozart. Pour revenir sur votre sujet un instant du bon et du mauvais optimisme, il y a une étude très intéressante qui montre que dans son travail, il vaut mieux être optimiste, mais qu'il y a certains métiers où il faut quand même une bonne dose de pessimisme. Il y a une étude sur les coupeurs de verre, vous savez, qui doivent appliquer des mesures de sécurité, sinon évidemment ils se blessent. On voit, et c'est ce que dit Alain Braconnier très justement, que l'optimisme mais bon, jusqu'au moment où il nous mène à l'imprudence. C'est ça la limite. C'est un moment où un optimisme complètement pathologique vous ferait penser que vous pouvez être ivre tous les jours, jouer votre argent au casino, ne pas appliquer quelques mesures de protection et que vous êtes protégé. Donc vous voyez, la santé est quelque chose d'un équilibre entre un vécu de soi-même à peu près optimiste et quand même une intégration des dangers.
Revenons quand même à Mozart. Même dans les périodes les plus sombres, Mozart a composé une musique heureuse.
Extraordinaire. Extraordinaire, cette espèce d'optimisme constitutionnel de Mozart qu'on entend. D'ailleurs, on est très frappé par la tonalité de ses musiques en lien quand il perd sa mère, quand il est tout seul à Paris, quand il a visiblement un père avec lequel il a des relations difficiles. Rien n'enlève cette pulsion. Et d'ailleurs, le jour de la flûte enchantée, le jour de la création de la flûte enchantée, tout créateur serait inquiet. Lui, il va faire l'idiot avec les musiciens dans la fosse d'orchestre parce qu'il a en lui cette pulsion optimiste.
Frédéric Schifter, depuis Bayonne.
Je crois qu'on confond deux choses. Alors, c'est-à-dire que par une espèce de tour de passe-passe rhétorique, on range dans la catégorie des optimistes les joyeux et dans la catégorie des pessimistes les tristes, voire les tristes cires. Or, il me semble que une conception tragique de l'existence, en tout cas telle que je la ressens, telle que je la pense et telle que je la ressens, n'exclut absolument pas la joie. Et au moment même où l'euphorie, au moment même où vous parlez de Mozart, je pensais justement à Mozart, qui effectivement montre à quel point la joie côtoie le tragique. Aussi bien d'ailleurs que la tristesse, hein, mais là c'est une affaire, je dirais, de tempérament, c'est pas une affaire de choix d'existence, ce n'est pas Mozart qui dit « tiens, je vais décider d'être joyeux alors que tout s'écroule autour de moi », d'accord ? Je pense que la joie est une réaction aussi au tragique de l'existence, c'est peut-être la meilleure des réactions, mais ce n'est pas la seule, et en tout cas, ça n'est pas du tout, je dirais, fair play, intellectuellement parlant, que de ranger dans le camp pessimiste la tristesse et dans le camp optimiste, là, ce sont deux choses totalement différentes.
On n'est pas fair play, c'est clair. Mais en tout cas, il y a quand même une différence entre la décision, nous on ne travaille pas sur la décision, et l'anticipation. Ce sur quoi on travaille, c'est l'anticipation. La capacité à anticiper pour soi quelque chose de meilleur, définitivement c'est bon.
N'hésitez pas à témoigner sur l'appli de France Inter ou sur Twitter, hashtag ça va pas la tête.
Je chante soir et matin, je chante sur mon chemin. Je chante, je vais de faire mon château, je chante pour du pain, je chante pour de l'eau. Je couche la nuit sur l'herbe des bois, les mouches ne me piquent pas. Je suis heureux, j'ai tout et j'ai rien, je chante sur mon chemin. Les elfes, divinités de la nuit, les elfes couchent dans mon lit. La lune se faufile à pas de loup dans le bois pour danser avec nous. Je sonne chez la comtesse aujourd'hui, personne, elle est partie. Elle n'a laissé qu'un plat de riz pour moi, me dit un laquais chinois. Je chante, mais la faim qui me poursuit tourmente mon appétit. Je tombe soudain au creux d'un sentier, je défaille en tombant et je meurs à moitié. Et gendarme qui passait sur le chemin, gendarme, je tends les mains. Pitié, j'ai faim, je voudrais manger. Je suis tout léger, léger. Au poste, d'autres moustaches m'ont dit au poste. Ah, mon ami, oui, 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 c'est vous le chanteur, le vagabond. On va vous enfermer, oui, votre compte est bon. Non, ficelle, tu m'as sauvé de la vie. Ficelle, sois donc béni, car grâce à toi, j'ai rendu l'esprit. Je me suis pendu cette nuit et depuis je chante. Je chante soir et matin, je chante sur les chemins. Je hante les fermes et les châteaux. Un fantôme qui chante, on trouve ça rigolo. Et je couche la nuit sur l'herbe des bois. Les mouches ne me piquent pas, non, non. Je suis heureux, ça va, j'ai plus faim. Et je chante sur mon chemin.
Charles Trenet, je chante.
Vous êtes un éternel optimiste et vous insupportez votre entourage. Votre joie de vivre est même parfois perçue comme une agression par vos proches. Décompressez. Partez en vacances avec l'un des séjours en zone de guerre de l'expert du voyage, Dernière Frontière. Irak, Syrie, Mali, Nigeria. Avec les séjours zone de guerre de Dernière Frontière, vous prendrez conscience que le monde est sale et laid, que l'homme est vraiment un loup pour l'homme. En ce moment, profitez de notre promotion La Syrie sur les traces des djihadistes et vivez la vraie vie d'un otage. Les voyages Dernière Frontière, des voyages qui vous changent.
Ça va pas la tête ?
Pastille administrée par François Audouin avec la voix d'Éric Oswald. 9h42 sur France Inter, à quoi bon être optimiste ? C'est le thème ce matin avec les psychiatres Michel Lejoyeux et Alain Braconnier, le journaliste Laurent Vallière et à Biarritz, à Bayonne, juste à côté, le philosophe Frédéric Schifter.
Tu sais ce qu'il faut faire quand la vie te joue un sale tour ?
Je ne veux pas le savoir.
Nage droit devant toi, nage droit devant toi, nage droit devant toi, devant toi.
Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire. Un peu d'eau fraîche et de verdure que nous prodigue la nature. Quelques rayons de miel et de soleil.
Fonce dans la bagarre et couille vers la victoire. Mon dernier espoir, car cet espoir, c'est toi.
Montage de quelques films de Disney signé François Audouin sur une idée de Lauren Bess. Frédéric Schifter, ça doit vous filer des boutons, ce petit montage Disney.
Pas du tout, pourquoi rien. Vous savez, moi, rien ne me file des boutons, je vous assure. Non, je repensais pendant la chanson de Charles Trenet, Il y a de la joie. Et j'aime bien la fin, ouais. Naturellement. Je chante. Je chante et évidemment, ça se termine assez mal puisque le vagabond se pend. Et ça me faisait penser à une sentence de Pascal qui disait qu'effectivement tout le monde souhaitait le bonheur, y compris celui qui allait se pendre, n'est-ce pas ? Parce que lui ne veut plus de la vie telle qu'elle est. Donc mieux vaut mourir que de continuer à vivre dans ces conditions. Donc c'est l'ultime combat, c'est l'énergie du désespoir. Et bien entendu, il n'y a pas à juger de tout ça. Simplement, ce que je note, c'est que, là, encore une fois, il faut distinguer la question de la félicité de la question de l'optimisme et du pessimisme. Ce sont deux choses voisines, certainement, cousines, mais certainement pas identiques. On ne peut pas les identifier sur le plan philosophique. En tout cas.
Je suis plutôt d'accord avec vous, Frédéric Schifter. À quoi bon être optimiste, à être en meilleure santé, Michel Lejoyeux ? Descartes oui. Disait que lorsque l'esprit est plein de joie, cela sert beaucoup à faire que le corps se porte mieux.
Bien sûr. Déjà, l'esprit se porte mieux. Nous le voyons d'un point de vue médical. Malheureusement, quand les gens arrivent à attenter à leur vie, c'est souvent une vague de pessimisme considérable qui les accable. Et c'est bien rare qu'on soit optimiste et qu'on commette des gestes graves sur soi-même quand on est optimiste. Beaucoup d'autres études très étonnantes montrent, par exemple, que c'est une étude chez des recrues d'une armée, montre que les optimistes ont moins de risques de coagulation que les pessimistes. pessimiste. Tout se passe comme si, quand on était optimiste, les hormones du stress, l'adrénaline, tout ce qui est mauvais pour les vaisseaux, va être plus bas. Une autre chose, c'est que les optimistes, par exemple, mangent mieux. Quand on est pessimiste, on a plus tendance à se jeter ce qu'on appelle la junk food, ces nourritures à fort taux calorique et très gras. Faut être très optimiste pour penser que ce que disent les docteurs en termes de prévention cardiovasculaire est vrai. Vous voyez, quand on est pessimiste, persuadé que de toute façon, on est confronté à un destin contraire et qu'on va mourir à la date qui est prévue, on ne va pas appliquer les mesures de prévention. Puis une dernière chose, c'est que les optimistes ont plus de copains. Hein, quoi qu'on dise, on préfère en société la compagnie des optimistes à celle des pessimistes. Et quand on calcule le lien social, il est plus élevé chez les optimistes.
Et puis le professeur Rosalba Hernandez de l'Université de l'Illinois a démontré que les personnes les plus optimistes ont deux fois plus de chances d'avoir une santé cardiovasculaire idéale que les pessimistes. Alain Braconnier, comment un simple état d'esprit aurait-il une influence sur la santé? On ne guérit quand même pas du cancer par optimisme.
Alors il y a plusieurs explications, mais je crois qu'il faut rester aujourd'hui encore face à cette interrogation. Il y a une explication qui est plus, disons, biologique, c'est-à-dire que on a trouvé, en effet, les études ont montré que chez les optimistes, leur système immunitaire fonctionnait mieux. Et on sait combien, quand il y a un déficit immunitaire, on peut tomber malade. Donc, il y a une corrélation, en tout cas. Et puis, il y a une autre raison qui est, Michel Lejoyeux l'évoquait, qui est plus des effets indirects. C'est-à-dire que, par rapport aux maladies cardiovasculaires, par exemple, eh bien, on voit bien que, ou par rapport aux maladies graves, comme le cancer, parce qu'il y a eu aussi des études sur le cancer, où on montrait que les optimistes se battaient mieux. Eh bien, c'est les effets indirects, c'est-à-dire c'est la capacité d'être dans le combat ou c'est la capacité de faire face à la situation qui fait qu'on va faire un régime ou qu'on va prendre le traitement qu'il faut, alors que c'est pas toujours très facile, hein, les traitements, en particulier pour le cancer. Donc c'est plus peut-être des effets indirects d'un certain côté. Puis d'un autre côté, il y a peut-être les aspects immunitaires qu'il faut prendre en compte.
Frédéric Schifter, le point de vue du philosophe.
Écoutez, là, c'est carrément l'hilarité qui me... Parce que les optimistes, il y a quoi? Il y a des cas d'optimisme. Enfin, la médecine a décelé l'optimisme chez l'individu.
Oui, elle l'évalue comme, avec des
comme des natures. Il y a la nature optimiste. Alors, j'aimerais bien savoir
Michel sur Lejoyeux.
Critères. Oui. Attendez, sur quel critère on arrive à déterminer qui est optimiste, qui est pessimiste, comme si c'était une nature. Enfin, au sens où vous l'entendez-vous, hein, c'est-à-dire plutôt bien disposé ou mal disposé à l'égard de telle ou telle chose, etc., qui sont des choses extrêmement variables au gré des circonstances de la vie, etc., et qui ne peuvent, à mon avis, absolument pas rentrer dans des catégories fixes et figées. Bon, déjà, je suis très étonné que l'on puisse dire l'optimiste guérit du cancer ou l'optimiste se bat mieux contre ceci ou contre cela. Donc, du coup, ça revient à dire que ceux qui ne seraient pas optimistes et qui se sentiraient pas optimistes sont fichus, alors que c'est pas du tout.
Je précise, Frédéric Schifter, oui. Alain Braconnier n'a pas dit que l'optimisme soignait, guérissait le cancer.
Il augmente ses chances de guérison, d'accord. Bon,
Michel Lejoyeux.
En tout cas,
la
notion de tempérament existe depuis la médecine de l'Antiquité. On sait, et le caractère et le tempérament, c'est pas quelque chose de très nouveau. Hein, Hippocrate en parlait déjà. Il y a des tempéraments bileux, il y a des tempéraments colériques, des tempéraments lymphatiques. Il y a aussi des tempéraments optimistes. Il me paraît difficile de remettre en cause l'idée que nous avons des structures de personnalité qui déterminent un rapport au monde. Ce que nous apprend aujourd'hui la psychologie, et notamment une certaine psychologie moderne, c'est qu'on peut agir, ça c'est notre grand optimisme, qu'on peut agir sur son tempérament et sur ses structures de personnalité, et il n'est pas imaginable de penser qu'on puisse vivre sa vie de la même manière avec des tempéraments différents.
Alain Braconnier.
Oui, je crois qu'il ne faut pas tout confondre, c'est vrai. Il y a des points de vue philosophiques. Oui. Je conçois très bien qu'il y ait des points de vue philosophiques qui sont défendus comme ils viennent d'être défendus dans cette émission. Mais il y a aussi une pratique. Et la pratique, c'est plutôt nous, sur le terrain, qui faisons la pratique. Et l'intérêt que moi je trouve dans le fait qu'on s'intéresse à l'optimisme, et au pessimisme d'ailleurs, c'est que en effet, on en voit les effets. Hein. À quoi bon l'optimisme? En effet, c'est la bonne question. C'est-à-dire qu'on en voit les effets, et dans la vie personnelle, et dans la vie professionnelle, et dans la santé, et dans les apprentissages. Parce que moi, je me suis intéressé aux enfants. Et aujourd'hui, on sait combien... des enfants qui peuvent être tristes, pessimistes, déprimés, parce qu'il y a des raisons, en effet, tout à fait, qui peuvent s'accumuler d'ailleurs. Et on sait aujourd'hui qu'il y a des moyens de rendre les enfants moins déprimés grâce à une mise en valeur des attitudes optimistes qui sont maintenant bien connues.
Michel Lejoyeux, quels sont vos outils pour rendre des personnalités pessimistes à un peu plus d'optimisme?
Maintenant, on voit qu'il y a un style de vie, il y a des comportements qui rendent optimistes. L'activité physique, le fait de sortir de chez soi, le fait d'être exposé à la lumière. On voit bien que dans certains pays, quand vous devez subir des nuits interminables, on a des vagues de pessimisme. Donc l'alimentation aussi, certains. On peut se dire que face à l'optimisme et au pessimisme, on n'est pas obligé d'être défaitiste et accepter l'idée qu'on peut travailler un style de vie plutôt optimiste. Et puis, la dernière chose dont je parle beaucoup dans mon livre, c'est le passé. On n'est pas si naïf qu'on pourrait nous le faire croire. Nous savons bien que notre niveau d'optimisme ou de pessimisme dépend aussi de notre capacité à avoir réglé des conflits anciens, à avoir fait la paix avec son passé, à avoir fait la paix avec des traumatismes anciens. On est optimiste aujourd'hui en fonction de ce qu'on a pu résoudre, de ce qui était passé avant.
Frédéric Schifter.
Oui, donc, écoutez, il va falloir que je me fasse à l'idée que le pessimisme est un cas médical qui mérite un traitement. Simplement, je voudrais rappeler un exemple littéraire très connu d'optimisme. Je pense à Monsieur Homais dans Madame Bovary. Monsieur Homais est un optimiste convaincu, qui croit en la science, qui croit que l'avenir de l'humanité dépend en grande partie de la, et même en totalité du progrès scientifique et médical. Et alors il décide que Hippolyte, le garçon du Lion d'Or, là, qui est pied beau, doit être opéré de son pied beau parce que une fois qu'il sera opéré de son pied beau, ben il sera beaucoup plus heureux. Donc Monsieur Homais s'est mis en tête de rendre Hippolyte heureux en le faisant opérer par qui ? Par Charles Bovary, qui est un médecin, qui se lance dans l'aventure. Et naturellement, l'opération tourne mal, la jambe s'infecte, et il faut faire venir quelqu'un d'autre pour amputer le malheureux Hippolyte. Moi, les optimistes me font toujours penser à Monsieur Homais, qui ont d'excellentes théories qui montrent que, allons, il y a qu'à Faucon et... À partir de là, si on est doté de la bonne volonté nécessaire, le réel va changer. Alors que bien entendu, c'est toujours le réel qui immanquablement nous change hein, en permanence. Hein, c'est jamais l'inverse.
Michel Homais le Joyeux.
Alors, vous allez être étonné, Frédéric Schifter. Je suis complètement d'accord avec vous. Je pense que ce qui est dit là, c'est la non-médicalisation du sujet. Il faut se méfier d'une dérive considérablement grave, qui serait de traiter le pessimisme par des antidépresseurs, de faire du pessimisme une maladie. On est sur un tempérament pour lequel le style de vie peut changer, mais certainement pas une maladie. Je suis complètement d'accord avec votre critique de la médicalisation du sujet.
Mais ça va pas la tête.
France Inter, Ali Rebi.
Ça me dérange pas que tu sois timbré.
Ça va pas la tête.
9h53 sur France Inter. Laurent Vallière, en discutant dans les couloirs de France Inter, quand je vous ai parlé de notre thème du jour, vous avez tout de suite évoqué La vie est belle de Frank Capra, réalisé en 1946. Le critique David Nives parle de La vie est belle comme d'une véritable tragédie optimiste.
Oui, c'est ça, c'est un peu la synthèse. Hein. D'ailleurs, je ne sais pas si Frank Capra était un réalisateur particulièrement optimiste, je pense qu'il était plutôt pessimiste. C'est un film absolument merveilleux qu'il réalise en 1946, qui est un peu la synthèse du cinéma de Capra. C'est vraiment David contre Goliath. C'est l'histoire d'un homme qui a toute sa vie donné beaucoup à tout le monde. Il a sauvé son frère de la noyade quand il était tout jeune. Il a perdu une oreille, enfin la surdité d'une oreille. Il a repris l'entreprise de son père parce que pour laisser son frère justement faire des grandes études. Et du coup, il s'est assis sur ses envies d'être explorateur. Il essaye de... ça se passe avant 1929 aux États-Unis, d'aider ses concitoyens à acquérir des logements. Et ça va mal se passer. Et en fait, le film commence au moment, de façon très tragique, la nuit noire, la tempête, sa voiture, et il décide de se suicider dans la rivière. Et à ce moment-là, c'est très drôle, il y a deux petits anges aux cieux qui se disent bon allez on va essayer d'aller sauver celui-ci aussi. Tiens toi, tu mérites tes deux ailes, descends donc et essaye de le sauver. Et le film, la façon dont il va sauver cet homme est assez remarquable du point de vue de cinématographique. On va avoir droit à un flashback sur toute la vie de cet homme. Et une fois que l'ange décide d'aller sauver cet homme, d'abord il se jette à l'eau. Donc du coup, l'homme qui est interprété par James Stewart se sent obligé d'aller le sauver. Et du coup, il va lui montrer qu'est-ce que serait devenu cette ville s'il n'avait pas vécu. Et pendant 15 minutes, vous avez la femme de James Stewart, on découvre qu'elle est devenue une vieille fille, enfin, on découvre la vie, si vous, si moi, enfin, c'est une philosophie de la vie absolument merveilleuse, parce qu'à chaque fois qu'on peut effectivement être pessimiste sans se dire à quoi bon vivre, à quoi je sers d'être là, ce film vous donne voilà, des frissons à chaque fois dans le dos. Moi, je sais qu'à chaque fois je le vois, j'ai les larmes aux yeux, parce que c'est un hymne à la vie tout à fait merveilleux. If a sky full of crap always lands in your lap, make a curtsy and tap your troubles away. Laurent Vallière, que symbolisent pour vous les numéros de claquettes dans beaucoup de comédies musicales? Là, on vient d'écouter un extrait de Mac and Mabel de Jerry Herman. C'est drôle parce que ce numéro, par exemple, qui est un numéro forcément optimiste, c'est une énorme pessimiste qui est en train de le danser sur scène. C'est à la fin de Mac and Mabel, qui raconte l'histoire d'un grand réalisateur de cinéma dans les années 1910. Il a pris sous son ombrelle une petite fille qu'il a trouvée dans un bar et dont il a fait une star. Et puis, voilà, la vie tourne et il décide de changer de star. Et donc, elle, alors qu'il s'est marié avec elle, devient seule, déprimée, et la façon pour elle, eh bien, de redevenir optimiste, alors qu'elle est complètement au bout du rouleau, c'est de faire ce numéro de claquette qui s'intitule Tap Your Trouble Away, qui est pour moi vraiment l'image même de ce que sont les numéros de claquettes à Broadway aujourd'hui. C'est-à-dire, vous faites des claquettes pour un peu libérer l'énergie, pour faire de la danse et pour reprendre le sourire. Et Tap Your Trouble Away, ça veut dire faites des claquettes pour évacuer les problèmes.
Les claquettes, c'est une métaphore, hein, de l'euphorie et de l'optimisme, hein, de l'Amérique des années 30, 40.
Ben, voilà, ça a été créé, au 19e siècle, mais c'est vrai que dans les années 30, lorsque la dépression a sonné aux États-Unis, c'était les numéros un petit peu exubérants qu'ont mis à la mode Fred Astaire puis Gene Kelly. Et en fait, quand vous voyez encore aujourd'hui à Broadway ces numéros de claquettes avec 30 personnes qui dansent en même temps, c'est le style même de numéro qui vous rend euphorique et optimiste, même si c'est pas toujours bonnet, parce que c'est parfois un peu ironique.
Merci beaucoup Laurent Vallière, on vous retrouve dans le 5-7 de Noël Bréham dans votre chronique Tous en scène. Merci beaucoup Michel Lejoyeux. Votre ouvrage Les 5 clés du comportement, construire son optimisme, est disponible au livre de poche. Merci Frédéric Schifter depuis France Bleu Bayonne. Je recommande vivement le dictionnaire chic de philosophie chez Écriture. Merci Alain Braconnier, L'enfant optimiste vient de paraître chez Odile Jacob. Vous pouvez retrouver toutes les références citées sur franceinter.fr et nous podcaster à la page Ça va pas la tête ou sur l'appli France Inter. À la technique ce matin, il y avait Éric Mainvielle.